Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train. Dans cet épisode bonus, je vous partage quelques loose parce que derrière les images d'Instagram et les enfants et les parents merveilleux que nous faisons semblant d'être sur papier glacé, en fait, il y a des vraies histoires et rien de grave jamais, mais pas mal de loose qui se sont transformés en jolis souvenirs. C'était quoi ta plus grande loose en mer ? La plus grande loose en mer, c'est qu'on a pris un bateau au Brésil avec mes deux garçons, donc qui avaient 4 mois et 2 ans et demi. Et on est parti du continent pour aller sur une île. Et en fait, on a trouvé un petit bateau qui faisait un peu remorqueur de fortune. On a dit au gars, oui, c'est bon, tu nous fais la traversée. Il dit, oh, oui, ça dure 45 minutes, rendez-vous à 17h. Mais par contre, achetez-vous des parkas parce qu'il va un peu pleuvoir sur la route. Donc, on est parti s'acheter des petites parkas. J'avais mon bébé dans le porte-bébé et l'autre, tu vois, que je tiens la main. Les deux ne savent pas nager, hein, évidemment. On monte sur le bateau, on embarque avec deux Américaines et un autre couple. Et on met tous les bagages au milieu de nous. Tu vois, on était dehors et au milieu, on met tous les bagages. Puis, on commence à prendre la mer. Il fait hyper beau, on fait des photos, c'est trop sympa. Et là, la tempête se lève. Mais la tempête se lève. Il y a vraiment des trous. Le bateau, il gîte, mais vraiment, il est perpendiculaire à la mer. L'Américaine devant moi, elle se met à hurler, call an helicopter, you're gonna die, we're gonna die et tout. Bon, moi, je suis pas hyper à l'aise. La nana à côté de moi se met à vomir ses tripes, donc là, je suis encore moins à l'aise. Je me dis, en fait, si on coule, bah, je coule avec le bébé, parce que de toute façon, il est dans le porte-bébé. Et donc là, je demande au capitaine, entre un anglais, portugais, espagnol que j'invente, est-ce que vous avez des gilets de sauvetage ? Il me dit non. Donc là, je me dis, on va vraiment mourir. Il commence à faire noir, il commence à pleuvoir. Heureusement, mon garçon César s'endort dans les bras de son père, donc eux, ils ne vivent pas ce truc. Le petit, évidemment, il dormait dans mes bras. Vraiment, c'est chaud. C'est vraiment horrible. Et la nana en face de moi qui appelle en disant « call un hélicoptère », en fait, elle me stresse encore plus. Mmh. Et là, en fait, les bagages, ils commencent à giter, ils tombent sur nous. Mmh. Donc là, mon mec met les mains devant. Enfin, vraiment un cauchemar.
Et puis avec les enfants.
Avec les enfants. Et là, au bout, je commence à voir l'île au loin. Donc je me dis « ah, on est sauvés ». Et là, le capitaine nous dit « malheureusement, en fait, il y a trop de mer, donc il faut qu'on contourne l'île pour aller de l'autre côté
pour accoster.
Accoster. Donc là, le cauchemar continue. Vraiment, enfin, c'était vraiment l'enfer. Et finalement, quand on a accosté sur une plage totalement paumée, sachant que c'est une île où il y a pas de voiture, il y a rien, il y a trois pauvres maisons, c'était dingue. On est arrivé et là, il y avait une petite chapelle. Donc on est monté avec mon mec, César s'est réveillé et là, j'ai prié. Moi qui ne suis pas très croyante et très pratiquante, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, il y a quelqu'un.
J'ai une bonne étoile.
Voilà, j'ai une bonne étoile. Et ce qui est dingue, c'est qu'on est resté genre 4-5 jours sur cette île et je me suis quand même dit, il faut qu'on refasse un petit tour de bateau avec un pêcheur. On a fait un tour pour pas que moi me reste ce truc atroce et mes enfants aussi. Alors, pas le bébé, mais l'autre. Et puis tout s'est très bien passé et le retour était sur mer d'huile. Mais on a eu peur. C'est vraiment une de nos plus grandes peurs.
Ta plus grande loose dans les airs ?
Ah, alors ça, c'est assez dingue. J'ai jamais eu peur en avion. J'ai jamais compris les gens qui avaient peur en avion. Pour moi, on était super safe et prendre l'avion n'était qu'un plaisir coupé du monde, etc. Et en fait, pareil, bah, je pense que c'est la même année. En décembre, on est parti au Mexique. Et pour rentrer du Mexique, on a fait Cancun, Miami, Miami, Paris. Et on a pris l'avion à Miami, un vol de nuit. On est monté dans l'avion. J'avais Balthazar sur les genoux, César à côté, mon mec qui dort. Et là, commence une tempête. Mais une tempête, un truc, l'avion, il bouge dans tous les sens. Tout le monde dort. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui est réveillée. Et là, il commence évidemment à demander au personnel navigant de s'asseoir. Et là, je regarde l'écran en l'air et je vois notre avion, un petit point au milieu de rien. Tu ne vois que l'océan. Et je me dis, Je me dis, mais putain, en fait, on va mourir là, et de toute façon, personne ne le saura jamais, j'ai pas dit au revoir à mes parents, et voilà, c'est la mort. Et là, s'allument, putain, les éclairages au sol pour montrer où sont les sorties de sécurité, tu vois. Et ça commence à biper dans tous les sens, mais un cauchemar. Et là, pour la première fois de ma vie, et c'est la seule que j'ai eu de ma vie, j'ai vraiment fait une attaque de panique. C'est-à-dire, j'ai commencé à transpirer, à pleurer, j'ai réveillé mon mec, je lui dis, en fait, on va mourir, regarde-moi dans les yeux, on va crever, etc. Bah, la plus grande peur de ma vie, je pense vraiment. Puis le truc s'est un tout petit peu calmé. Il y a une hôtesse qui s'est levée. Et Bertrand l'a appelé, il lui a dit « il faut que vous parliez à ma femme, elle ne va pas bien », etc. Et elle m'a dit « vous inquiétez pas, il y a une tempête au-dessus de l'océan, tout va bien se passer, on gère ».
De façon hyper calme.
Ouais, hyper calme. Et donc elle m'a assez rassurée. Et voilà, la fin du vol, ça a été. Et je n'ai pas réalisé à quel point, en fait, quand tu déclares quelque chose de physique, il paraît que ça revient, en fait. Quand on te remet dans les mêmes conditions, ça revient. Et donc depuis ce jour-là, j'ai une trouille bleue de l'avion, mais bleue. Si ça bouge d'un demi-centimètre, je commence à paniquer.
Ouais, ça a créé un petit traumatisme.
Ça a créé un trauma chez moi. Donc, je voulais essayer de faire de l'EMDR. Il paraît que ça marche hyper bien. Mais sinon, je fais un cocktail médicaments et d'alcool pour tenir le coup. Et j'attends que ça passe. Et depuis, j'ai hyper peur.
Ta plus grande loose sur la route ?
Ah, on en a eu pas mal. Il y en a une qui était très bonne. On est parti en Corée quand Suzanne avait 9 mois, je pense. Et en fait, j'avais décidé d'organiser un trip un peu toute seule, de faire le tour de la Corée en voiture au mois de décembre. Sachant que mon mari voyage énormément, il avait pas été là du mois de décembre. J'avais dit, t'inquiète, je gère le voyage, ça va être trop sympa et tout. On fait un Paris-Séoul et on doit arriver à 23h à l'aéroport de Séoul. On a donc les bagages, la petite Minus, quoi. J'avais pris mon siège auto parce qu'on devait faire un road trip. Donc, ce petit siège auto, les deux autres donc, qui ont donc 4 et 6 ans. Et je dis à mon mari, bah, tu vas chez Avis, j'ai loué une voiture, comme ça, on se met là et on a 100 km de route à peu près pour arriver au premier hôtel parce qu'on terminait par Séoul et donc on partait direct dans la Pampa. Donc ok, il prend les papiers, il rentre, puis il ressort avec une tête de 10 mètres de long. Il me dit, mais en fait, t'as pas ton permis international ? Je lui dis, bah non, mais tu lui dis qu'on l'a oublié à la maison, t'inquiète. Il fait, non, mais je t'explique, il n'y a pas t'inquiète. En fait, c'est obligatoire ici. Et elle m'a fermé la porte au nez, pas de permis, pas de voiture. Ok, donc là, c'est chaud parce que t'as quand même tes 3 enfants, tu viens de faire 14 heures de vol. Ton mari qui ne peut plus te blairer quand même et qui dit mais c'est quoi cette loose, etc. Donc, on a trouvé un taxi pour faire les 100 km qui nous a emmené à l'hôtel que j'avais quand même réservé, que tu ne peux pas annuler. Évidemment, tu n'as pas Internet, parce que tu fais... enfin bref. Et arrivé là, nos 3 enfants se sont endormis et nous, on a reconstruit tout notre voyage sans jamais prendre la voiture. Donc, on a refait le voyage, mais en prenant le train, le bus, etc. etc. Finalement, la loose s'est transformée en kiff parce qu'on a vu la Corée autrement. Donc ça, c'est un tip, en fait, avoir son permis international dans beaucoup de pays pour louer une voiture. Et il faut le faire vraiment longtemps en avance, parce que là, on l'a fait pour aller en Corée cet été. Et c'était 4 mois et demi d'attente pour avoir ton permis international. Mmh. Voilà, ça, c'est quand même bon à savoir. Et il y a plein de pays où c'est un peu obligatoire. Et une autre très bonne loose, on est parti au Costa Rica pour les 40 ans de mon mari. Et on avait loué un super 4x4, un peu à l'ancienne et tout. Et je vois une route sur le routard, je pense que j'avais le routard, qui dit, mais là, c'est magnifique, tu traverses la jungle et t'arrives à... Je ne sais plus dans quelle ville, c'est vraiment dément. Donc, toute la journée, on roule, on est sur la piste, c'est canon. Tu as des toucans, des paresseux, c'est génial. C'est un peu long, mais c'est beau, la piste, elle est belle. Puis, on arrive au bout de la piste et là, il y a une rivière qui passe. Et là, Bertrand, il me dit, mais nous, on ne traverse pas la rivière, en fait. Et là, il y a un camion en face de nous qui, lui, il traverse la rivière, tu vois. Et le mec se met à côté de nous, sauf qu'il a les roues à peu près à hauteur de ma voiture, tu vois. Ses roues, elles font tornado. Il me fait, no, you can go, it's okay. It's just like there is crocodile inside. On a 2 enfants qui savent pas nager, les crocodiles dans la rivière, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on se regarde et tout. Et lui, il me dit, moi, je passe pas. Ou sinon, vous descendez tous de la voiture, je passe une fois, et si je suis pas mort, en fait, je reviens vous chercher. Mmh. Donc là, bon, je suis pas sûre. Écoute, finalement, on a refait une boucle de 150 km pour éviter la rivière, parce qu'évidemment, il n'y a pas de pont sur cette rivière au Costa Rica. Et donc, on a fait une énorme boucle pour ne pas traverser la rivière.
Ta plus grande loose avec la food ?
Ah ben, il y en a eu pas mal, parce qu'on a fait quand même pas mal de voyages où la nourriture était un sujet. J'en ai une très bonne, on est allé en Ouzbékistan et en fait, ma fille mange de tout et elle aime tout. Je n'ai rien fait pour, mais elle est comme son père, elle mange de tout, elle aime tout. Et on allait manger le plat local, je crois que ça s'appelle le plof dans mes souvenirs, dans un endroit, en fait, c'est du riz revenu dans le gras, dans beaucoup, beaucoup de gras, avec beaucoup, beaucoup de viande d'agneau. Et tout ça, c'était dans des... Tu sais, ils faisaient ça dans des espèces comme des wok immenses, mais qui font 1 mètre de large dans un endroit où tous les Ouzbeks viennent déjeuner. Et en fait, tu viens avec ton assiette et te remplissent du plof qui est en train de truc. Et ils te rajoutent dessus un peu de saucisson, du saucisson de cheval. Et donc après, on se met à table. Donc moi, franchement, je mange pour montrer l'exemple, mais je ne peux pas manger de l'agneau, vraiment. Et puis c'est gras. C'est... Je dis, vraiment, les enfants, vous devriez manger, c'est délicieux. Et là, je vois ma fille qui prend le saucisson, mais vraiment...
Et qui s'engage.
Qui se délecte. Et qui me dit, mais maman, c'est délicieux de ça. Donc
on
ça m'est resté.
Et
je n'ai même pas dit que c'était du cheval, parce que je me suis dit, mais mon Dieu. Après, voilà, c'est dans ce pays-là, c'est comme ça. Elle m'a fait la même chose en étant en Mongolie cet été, et elle le ragoût de mouton. Elle mange tout, en fait. Quand tu arrives dans une yourte en Mongolie, pour te souhaiter la bienvenue, en fait, les nomades te donnent du lait de yak fermenté. Et en fait, dans leur yourte, ils ont un tonneau. Ils vont traire le yak, je crois que c'est 4 fois par jour. Ils mettent le lait de yak dans ce tonneau, qu'ils font fermenter toute la journée, et avec un espèce de tube de bois, ils frappent le lait toute la journée pour pas qu'il...
qu'il se transforme en beurre, quoi.
Ouais. Et tout le monde, vas-y, toute la journée, frappe le lait de yak. Et quand t'arrives, on te sert un bol de la taille d'un saladier et tout le monde boit dans le même bol ce lait de yak. Donc on arrive, donc je préviens bien tout le monde, on est obligé de boire, même une petite gorgée, c'est très mal élevé si vous buvez pas et tout. Ah bah elle, elle s'est fait limite le bol.
Le saladier entier.
Alors que mes garçons et moi, on a bu, tu sais, avec vraiment un haut le cœur hyper hard. Elle, aucun problème. Donc si vous avez un souci, vous pouvez aller tout à fait avec elle en voyage.
C'est trop bien d'avoir une fille tout terrain.
Voilà, et elle nous a fait un autre truc. On allait camper chez les Maasai en Tanzanie. Et en fait, quand t'arrives pour te souhaiter la bienvenue, ils tuent une chèvre et ils la font rôtir pour toi. Donc, ils ont tué la chèvre. Ils l'ont vraiment plantée là, dans le feu. Et on est assis devant tous les Maasai, nous 5, sur un petit banc. Et là, ils commencent à découper la chèvre avec son couteau ancien, quand même, son couteau, tu vois. Moi, j'ai du mal. Et là, Suzanne a mangé la moitié de la chèvre. Elle était là, can I have more? Je pense qu'elle avait 2 ans. Elle a mangé toute la chèvre. Alors que nous, on ne pouvait pas.
Excellent.
Et en plus, je disais à mon fils, en plus, mange-le, ne fais pas tomber par terre parce qu'il y a vraiment des hyènes, des chiens sauvages et tout. Il ne faut pas faire tomber la nourriture et c'est très précieux pour eux, tu vois. Donc toi, évidemment, tu manges, tu es un adulte, tu prends sur toi. Mais Suzanne a mangé donc toute la chèvre des Maasai. Donc toujours avoir sous-sous en voyage.
Ta plus grande lose côté thune?
J'en avais une très bonne. Je suis partie en Albanie avec ma copine Priscilla et ses enfants. Donc on avait un petit van avec nos 5 enfants. Et avant de partir, le mec, il nous loue la voiture. C'est assez à la cool, hein. C'est sur le parking de l'aéroport, on te donne des clés de voiture en disant voilà, c'est celle-là. Il me dit faites attention, il y a très peu de distributeurs en Albanie, ayez toujours un peu de cash et en même temps pas trop pour pas vous faire agresser, donc il faut que tu aies un bon truc. Ok, tu sais, puis nous, ok, on papote toute la journée, etc. Et donc on roule avec les enfants, je pense 3e, 4e jour, j'ai plus de thunes. On se dit bon, on va bien trouver, et puis il commence à avoir faim les enfants, on a faim. Et là, on trouve un restaurant de poissons posé sur un lac. Il n'y a que des Albanais à l'intérieur. Le truc est canon, grande table d'hôte. Elle te fait griller des carpes, du truc et tout. Donc, on s'assoit. Les enfants sont hyper contents. Et là, je lui dis, on peut payer en carte? Ah non? Ok, je regarde Priscilla. Elle me dit, je n'ai pas de cash. Moi, j'ai 2 euros. C'est où la tirette? Ah ben, c'est au village là-bas, à 45 bornes. Et je vois mes enfants attablés qui avaient déjà limite pris le pain sur la table. Je dis, bon, bah, j'y vais. Et donc, en fait, ils ont déjeuné. Et pendant ce temps-là, j'ai fait l'aller-retour pour aller tirer les sous. Et je suis revenue, juste payer le resto et je suis repartie.
Et ta plus grosse engueulade?
Ma plus grosse engueulade, c'était vraiment hyper drôle. On est parti au Sri Lanka, on n'avait pas encore ma fille. Et donc, on se déplaçait qu'en tuk-tuk. Et on était à Arugambek, un endroit très cool de surfeurs, un peu sympa. Et le soir, il nous dit, il y a un endroit pour aller voir les éléphants. Il faut prendre un tuk-tuk et vous allez voir les éléphants. Ils se baignent et ils se lavent à cet endroit. Allez-y et tout. On prend un tuk-tuk et en fait... J'ai l'impression que le tuk-tuk, c'est un peu l'argent de poche des jeunes en vacances, tu vois, c'était les vacances. Et donc, ils ont tous un tuk-tuk, les jeunes du village. On monte tous les 4 dans le tuk-tuk. J'avais un petit garçon qui avait vraiment 1 an et demi, je pense. Et l'autre, 4 ans et demi. Et là, ils commencent à faire une course en tuk-tuk. Vraiment une course, hein. Ils vont vraiment à fond sur leur truc.
Ouais.
Et là, je sais pas, mon mec se prend d'une peur bleue. Vraiment, le tuk-tuk, il fait, tu vois, il bouge, on a quand même les 2 enfants dedans, on n'a pas de casque. Et on s'est vraiment engueulé. On s'est vraiment engueulé avec le mec qui nous a laissé donc sur un bord de route avec nos enfants.
Arrête. Démerdez-vous.
Et oui, mais en fait, je pense que il faut quand même jamais oublier ta sécurité quand t'es en voyage. Et c'est vrai que c'est fun, c'est marrant, c'est comme le buggy dans les dunes et tout, c'est hyper marrant. Mais en fait, c'est quand même dangereux.
C'est tout l'accident.
Et voilà. Et donc même quand t'es en safari, c'est fun. Bah, tu mets quand même ta ceinture de sécurité. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a quand même des règles. Et lui, c'était un jeune, il s'est marré. Mais nous, on était quand même 4 avec 2 bébés et c'était dangereux. Quoi.
Non, mais t'es obligé d'être vigilant.
On s'est pas mal engueulé avec lui.
Et ta plus grande lose côté santé? T'es arrivé des gros pépins?
Écoute, non, je touche du bois. J'ai vraiment pas eu des grosses loses. On était en Australie en camping-car et le soir, on déshabille les enfants pour aller se doucher au camping, tu vois. Je me dis, putain, mon fils, il a un truc bizarre dans le dos. Là, je réalise piqûre de tique. Mm-hmm. On ne sait pas quoi faire. On n'a pas de tire-tique. Donc là, on essaie de chercher du réseau un peu sous un arbre, tu vois. Machin, mon mec me dit, il faut faire comme ci. Moi, je dis, il faut faire comme ça. Nan, 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 nan. En fait, j'essaye. Bon, bah, évidemment, je pète le tique en 2 dans la peau de mon fils. Et donc là, il me dit, il faut absolument qu'on trouve un dispensaire. Il faut aller le montrer. Ici, c'est très dangereux. Les tiques, j'ai eu besoin de voir sur Internet. Dans ce coin, ils ont la maladie de Lyme, etc. Donc là, quand t'es en camping-car, ça prend pas deux minutes de décoller. Il faut ranger ta table, ranger ton barbecue, ranger tes trucs, recaler tes placards. On remet tous les placards et tout. Nous voilà partis au centre médical. Effectivement, la nana nous dit, ici, il faut absolument enlever les tiques et bien les enlever parce qu'ils sont hyper dangereux. Donc là, ils ont dû lui endormir une partie du dos et lui couper vraiment
un
scalpel.
Elle lui incisait un peu.
Ouais, lui incisait et tout. Donc ça, un mauvais souvenir, mais qui s'est très bien terminé. Donc je dis, c'est pas des vraies looses. Et j'ai une autre loose, c'est que je suis hyper migraineuse. Normalement, j'ai tout le temps mes médicaments avec moi quand je sens une crise arrive. Et en fait, je suis partie en Égypte toute seule avec mes enfants. Il faisait hyper chaud. Et souvent, quand il fait très chaud, tu peux développer quand même pas mal la migraine.
T'es déshydratée.
Exactement. Et on fait toute une journée. On est allé à Abu Simbel. C'était génial. Mais il fait chaud. Toute la journée, il fait chaud. Et je me dis, elle est en train de monter. Elle est en train de monter. Elle est en train de monter. Et on était sur un petit bateau avec une autre famille. Et en fait, on arrive sur le bateau. Je peux plus parler. Il faut que j'aille me coucher. Je vais vomir par terre, en fait. Et donc, je m'allonge sur mon lit. Mais ils sont petits, les enfants. Enfin, ils ont vraiment 4, 7 et 9, tu vois, et on est sur un bateau. Ma fille, elle ne sait pas nager. Et je dis à mon fils de 9 ans, je ne peux pas me lever, trouve mes médicaments. Et donc, je l'entends, il cherche dans la... Ceux qui sont migraineux comprendront, quoi. Ils ne trouvent pas. Et en fait, je n'ai plus de médicaments. Et donc, je dis, il faut que vous alliez dîner. Dis au capitaine du bateau d'aider à dîner ta sœur et venez après vous coucher. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas là. Je ne suis pas sortie de mon lit. Ils ont fait dîner mes enfants. Mes enfants se sont mis en pyjama. Ils sont venus se coucher avec moi, tu vois. Et le lendemain, j'étais ressuscitée. Donc, je suis allée remercier ces gens et je me suis dit, en fait, si ça t'arrive quand ils sont vraiment petits et que tu es vraiment tout seul, c'est chaud, en fait. Il faut quand même toujours avoir tes médocs avec toi. Et ça m'est arrivé aussi, on est parti en Malaisie quand César, il avait un an. Et dans l'avion qui est rentré de Malaisie, j'ai commencé à faire une crise, je n'avais pas de médoc. Et à l'aéroport de Singapour, j'ai fini à l'infirmerie où ils m'ont mis sous perf. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas redécoller dans le prochain vol, en fait, parce que vous n'êtes pas apte, en fait, la tension est montée trop forte et tout. Et donc, on a attendu, je ne sais plus combien de temps, parce que moi, j'étais vraiment dans un état second, mais mon mec avec la poussette, tu vois, dehors du local infirmerie, et moi, sous perf, jusqu'à ce que ça passe, quoi. Donc, jamais de grande loose, hein, on touche du bois. Mais juste, il faut bien partir avec ses bons médocs quand on sait qu'on a des faiblesses, quoi.
Et derrière tes photos canons d'Instagram, avoue que tu as eu des looses au niveau des hébergements.
Non, j'ai pas eu des looses, mais on a bien rigolé. J'ai eu deux trucs auxquels je pense hyper marrants quand on a fait ce trip en Albanie avec Priscilla. Non, j'en ai trois d'ailleurs des looses. Mais en Albanie, on dormait chez l'habitant. Et donc, c'était organisé par Nomad. C'était hyper marrant d'organiser. Et on arrive dans le village et nous dit qu'il faut appeler Laszlo. Donc moi, j'arrive dans le village, j'appelle Laszlo. En fait, Laszlo parle ni français, ni anglais, ni rien. Donc Laszlo, je l'appelle, mais malheureusement, on n'arrive pas à communiquer. Je lui dis place du village. Il vient nous chercher avec sa femme. Ils sont hyper sympas. Ils me font penser à mes grands-parents. Vraiment, ils nous ont accueillis cœur sur la main. Et en fait, je comprends que nous, on dort dans leur chambre. En fait, que je ne sais pas où ils dorment. Je pense qu'ils se sont fait un lit de fortune quelque part dans cette toute petite maison. Et en fait, on arrive dans le salon, on se pose, ils nous offrent un thé, etc. Et là, Priscilla montre avec ses mains dormir pour qu'on pose nos affaires. Nos enfants, ils sont fatigués de la route et tout. Et là, ils ouvrent la porte et il y a un lit double.
Attends, pour toi et tes trois
enfants. Toi et mes trois enfants. Et je pense que ça fait 1m60, tu vois. Et ils étaient... Je me moque vraiment pas parce qu'ils avaient le cœur sur la main. C'était dingue. Mais moi, j'adore dormir avec mes enfants, donc je n'ai aucun problème. Mais bon, tu peux être surpris quand même de dormir dans 1m60 avec tes trois enfants. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a ri. Et aujourd'hui, c'est mes plus beaux souvenirs.
Qu'est-ce que c'est drôle.
Et tu vois, et je leur envoie encore des WhatsApp parce qu'on continue de s'échanger. Mais on a vraiment ri sur le moment. Une autre loose qui était pas mal. C'est, je suis partie, alors ça c'était avant la famille, je suis partie en sac à dos avec une copine pendant un mois au Brésil. Et on était sur une île qui était canon. Et on avait réservé un hôtel, bon un peu vite fait, tu vois, comme ça. Et on arrive, on se dit rien toutes les deux, la nana elle nous montre notre bungalow et c'est glauque. Et tes draps, ils sont mouillés, ils sentent mauvais, c'est humide, c'était glauque. Et on se couche toutes les deux, on se dit rien, on fait genre semblant que c'est trop sympa et tout. Puis à un moment elle me dit, c'est chaud donc quand même. Je dis, ouais c'est chaud. Ouais, elle me dit, t'as pas un peu le cafard? Ouais. Écoute, on a refait notre sac. C'était la nuit, on était couchés, je me souviens, et on est reparti sur la plage.
Ah ouais.
Et on est allé chercher un autre endroit, parce que vraiment, tu sais, quand tu sens,
il y avait
pas bien. Ouais, il y avait une mauvaise vibe. Donc ça, c'était très drôle. Et une autre loose d'hébergement qui était pas mal. On a fait la Namibie avec des tentes sur le toit. Et en fait, on est arrivé dans un super camping. Enfin, camping, quand on dit là-bas, c'est tous les tentes, elles sont éloignées à 800 mètres les unes des autres. Hein. T'es vraiment. C'est très paumé. En fait, tu as deux blocs sanitaires au milieu d'un énorme espace totalement ouvert sur la nature et tu te mets pas loin d'un bloc à l'endroit où il y a un petit barbecue pour te faire ton dîner, tu vois. Et on s'installe, il y a un vieil arbre. Je me dis, ah, les enfants, ils vont grimper dans l'arbre, il y a le barbecue, c'est magnifique. Et je m'installe et il y a la nana du camping qui vient me voir et elle me dit, elephant, don't, elephant. Je comprends pas trop ce qu'elle me dit et là, je me retourne et derrière, effectivement, plein d'éléphants. Et donc, ok, bon, on remet nos trucs de camping et puis on va se mettre un peu plus loin. Les enfants jouent au foot et tout. Là, les éléphants traversent le campground, quoi. Ils sont énormes. Hein. C'est des éléphants d'Namibien, c'est des éléphants du désert. Ils sont vraiment énormes. Donc, on les regarde tous, on les filme, c'est trop beau. Et je me dis dans ma tête, en fait, c'est le passage des éléphants. Donc, c'est pour ça qu'elle nous a dit de ne pas nous mettre là. Tu sais, ils passent toujours au même endroit, les éléphants. Donc là, tu les déranges. Mais donc, maintenant qu'on s'est mis là, pas de souci, quoi. La soirée se passe, on fait notre petit dîner. Après le dîner, je commence un peu à faire la vaisselle et tout. Et je dis aux garçons, bah, allez vous brosser les dents, les gars. Après, on va se coucher. Et là, je me retourne. Et le bloc sanitaire, qui est, je ne sais pas, à 50 mètres de nous. En fait, les éléphants, ils sont dans le bloc sanitaire. Il y en a un qui a pété les toilettes, un qui a pété la douche. Et ils sont en train de boire l'eau parce que les pauvres, ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas bu dans ce coin de la Namibie. Ils ont soif et on est l'eau la plus proche. Et je pense que c'est celle essayer de me dire la dame, mais je n'avais rien compris. Donc, j'ai dit au garçon, restez là. Et je dis à mon mari, mais moi, je ne veux pas rester là. En fait, notre fille, c'est un bébé. Nos tentes, c'est quand même 2 petits bouts de toile posés sur un toit. C'est quand même flippant. Qu'est-ce qu'on va faire et tout ça? Bah, on n'a pas le choix. Il me dit, on est là. En Afrique, tu ne roules pas la nuit. On est là. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, bah, moi, je vais aller voir la nana du camping et je vais lui demander si on ne peut pas dormir dans sa petite cahute d'accueil. Tu vois. Donc, j'y vais. Il commence à faire sombre hein, parce qu'on a fini de dîner. Vraiment, la nuit va tomber. Et je dis, oh, on a peur des éléphants, on peut dormir et tout. Elle me dit, non, vous ne pouvez pas dormir et tout. Et en fait, elle voit que j'ai mon bébé dans les bras. Je pense qu'au début, elle ne voyait pas, tu vois, je me retourne, elle me dit, ah, vous avez un bébé, bah, alors venez. Et donc là, elle nous met juste derrière elle, il y avait une petite salle, minus, tu vois, mais trop sympa. Elle nous dit, bon, par contre, keep your secret, tu vois, parce qu'il y avait quelques autres personnes dans le camping, mais personne n'avait des bébés. Donc, on vous met là, mais vraiment machin. Donc, on a dormi là un peu en quinconce, tous les 5, tu vois. Et un peu en train de se dire, en fait, on est un peu des trouillards. On était entre les deux. En même temps, on était contents, en même temps, un peu trouillards. Écoute, finalement, le lendemain, on est sortis, ils n'avaient pas touché notre tente. Mais il y a un villageois qui est passé par là et qui nous a dit, vous avez vraiment bien fait, parce qu'il y en a un au milieu de ces éléphants qui est en rut. Donc, ça veut dire, tu le vois, il a toujours un truc qui coule entre les jambes. Et lui, franchement,
très énervé.
Si t'es sur ton passage, ça ne sert à rien de risquer. Donc voilà, c'était un peu une loose hébergement.
Oh ouais.
Mais tu vois, ça fait des souvenirs. Les looses de voyage font des beaux souvenirs.
Mais oui, c'est trop bien. Parmi tous les voyages que tu as fait, est-ce que tu as eu une loose destination, un endroit où tu t'es un peu planté, tu t'es dit non, mais en fait, j'aurais jamais dû y mettre les pieds?
La loose, en fait, elle est plus globale. C'est de penser que de temps en temps, il y a des destinations qui te plaisent, mais en fait, ça ne va pas en famille. En fait, je trouve que les enfants, ils sont très heureux quand ils peuvent être quand même un peu libres. Ils peuvent jouer dehors, ils peuvent taper dans un ballon. Donc voilà, je pense que la plantade, c'est de vouloir faire un truc sans un peu adapter ton truc et tout le monde est un peu déçu, un peu triste, quoi.
Est-ce que tu as déjà eu des looses avec des animaux? T'en parlais un peu avec les éléphants, mais...
J'en ai une très drôle. Quand j'étais enceinte de mon deuxième petit garçon, on est parti se faire un road trip au Canada. En plein été, c'était génial. Et on arrive pour voir les baleines. Et donc, je vais à Tadoussac. Soi-disant, t'es sûre de voir des baleines, etc. Donc, je vais à la petite cahute. Et je dis au mec, bah voilà, donc on a un petit bébé de... Bah, il avait 1 an et demi, je pense. On a un petit garçon de 1 an et demi. Et moi, je suis enceinte. Il dit, ah, alors, comme c'est comme ça, vous pouvez pas prendre le pneumatique. Et c'est celui où tu vas un peu plus près des baleines, parce que tu as le droit de les avoir un peu plus près. Vous pouvez prendre que le gros bateau qui est là, etc. Il part à 16h. D'accord, ok, bon, bah, ok, super, on rentre. Et il nous voit un peu habillés comme les touristes. Il dit, par contre, n'hésitez pas à vous mettre un bonnet et une petite écharpe, tu vois, ok. On monte sur le bateau, moi, hyper excitée d'aller voir des baleines. Première fois de ma vie que je vais voir des baleines. Mon fils nous a saoulés pendant 2h30. J'ai jamais pu sortir de ce bateau. C'est... Parce que dès que je le laissais, il se mettait à hurler à la mort. Dès qu'on sortait, il hurlait à la mort. Tu sais, un moment, il, je sais pas, il avait pas envie, il était pas là. Et donc, mon mec était là. Eh, viens voir, viens voir. Donc, on s'est changé le porte-bébé, tu sais, parce qu'il y avait des vagues. Il y a des vagues quand t'attends, machin, etc. Donc, pire souvenir, j'ai pas vu une baleine.
Et Bertrand m'appelait. Je voulais jeter mon fils.
Je voulais jeter mon fils par-dessus bord. Et donc, j'ai jamais vu une baleine. Et j'ai jamais vu de dauphin de ma vie non plus. Donc, écoute, ce sera une occasion d'aller en voir.
Je pense que t'auras
d'autres occasions. Donc, c'était pas une loose, mais c'était une drôle d'aventure. Et je lui rappelle toujours quand il me dit, ah, tu sais, là-bas, il n'y a pas qu'à baleine. Je dis, non, les baleines, on était censés les voir, mais tu m'as jamais laissé, tu vois.
Merci, Marie.
De rien.